Là, j'ai une épouse qui s'appelle Alison. On a deux filles, Léa et Sarah. Deux petits-enfants, les plus beaux du monde, évidemment. Mais j'ai des photos à l'appui pour si vous n'êtes pas convaincus. Et voilà, donc mon ministère aujourd'hui, c'est des responsabilités nationales au sein donc, de notre famille d'église, les communautés et assemblées évangéliques de France. Et ça fait plus de 20 ans que je suis dans la commission de service et de référence. Mon dernier passage ici, c'était le 31 janvier 2010. Donc ça commence à remonter un petit peu. Mais voilà, j'ai quelques souvenirs aussi de l'église de grâce. Et donc maintenant, depuis une bonne dizaine d'années, j'ai un poste de secrétaire général. Donc voilà, j'essaie d'animer la commission de service et puis aussi d'être en soutien aux églises. On ne fait pas que de la médiation. Heureusement. Même si j'ai été voilà, formé pour ça, mais ça c'est un détail. Je vous propose de lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, pardon, au chapitre 20, mais on va faire le lien avec le chapitre 19, la parabole des ouvriers de la dernière heure. Et je lis dans la Nouvelle Bible Second. Voici en effet à quoi le règne des cieux est semblable. Un maître de maison qui était sorti de bon matin embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la troisième heure, en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire et leur dit: Allez dans la vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent. Il sortit encore vers la sixième, puis vers la neuvième heure, et il fit de même. Vers la onzième heure, il sortit encore et en trouva d'autres qui se tenaient là et leur dit: Pourquoi êtes-vous restés ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent: C'est que personne ne nous a embauchés. Allez dans la vigne, vous aussi, leur dit-il. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant: Appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, pensant recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. En le recevant, ils se mirent à maugréer contre le maître de maison et dirent: Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux: Mon ami, je ne te fais pas de tort. Ne t'es-tu pas mis d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui est à toi. Et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux? Ou verrais-tu d'un mauvais œil que je sois bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers derniers. Jusque-là, c'était la parole de Dieu. Je propose de réfléchir sur la grâce que nous avons de servir. Et la question de la manière très subtile que notre service peut, quand notre service peut nous priver de goûter la bonté de Dieu. La grâce est la base de notre service, qui ne sera jamais méritoire. Alors, Matthieu 20, ça vient, ça c'est un grand principe herméneutique, n'est-ce pas? Ça vient après Matthieu 19. Et c'est le contexte de cette parabole, Matthieu 19. Il y a eu un entretien avec le jeune homme riche, n'est-ce pas, qui est venu voir Jésus en lui posant cette question, « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Ça suscite des questions des disciples, hein, la manière dont cet épisode s'est déroulé. Ça les inquiète énormément et ils disent, « Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que se passera-t-il pour nous ?» La réponse de Jésus, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi à la nouvelle naissance, lorsque le Fils de l'homme s'assiera sur son trône de gloire, vous aussi vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté frère, sœur, père, mère, enfant ou terre à cause de mon nom, recevra 100 fois plus et héritera la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et beaucoup de derniers seront premiers. Voici en effet à quoi le règne des cieux est semblable. Donc cette parabole vient expliquer cette inversion entre premier et dernier. Quand on parle de service, il y a des prérequis, n'est-ce pas ? Des choses qui doivent être, on pourrait dire beaucoup de choses, hein. Mais la première chose que le Seigneur nous demande, c'est d'être fidèle avec ce qu'il nous a confié, n'est-ce pas ? Paul nous le dit aussi, ce qu'on demande, ce qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Là-dessus, on a deux paraboles aussi, n'est-ce pas ? La parabole des talents, la parabole des mines. Très intéressant, hein ? Dans les talents, il y en a qui reçoivent 5 sacs, d'autres 2 sacs. Donc on n'est pas tous vraiment égaux. Mais l'important, ce qui fait la différence entre bon et fidèle et méchant et paresseux, eh bien, c'est d'avoir fait fructifier chacun selon sa capacité, ceux qui avaient été confiés. Parabole des mines, tout le monde a une mine. Il y en a qui rapportent quand même plus que 10, hein, plus que d'autres, multiplié par 10, multiplié par 5. Mais là encore, l'évaluation ne se fait pas sur la quantité, mais selon la fidélité. Après, il y a un autre élément qui me paraît extrêmement important et qui, en fait, annule tout service. Et moi, quand je lis ça, je le prends comme un très sérieux avertissement. Don Carson, alors bon, j'ai une formation à la base d'ingénieur, il y a des choses que je retiens mieux, vous verrez, là, je vais même arriver à mettre un fichier Excel dans la parabole des ouvriers de la dernière heure. Mais c'est que 5 moins 1 égale 0. Voilà. Ça, c'est la logique biblique. 5 moins 1 égale 0. Je vais vous le démontrer. Vous prenez 1 Corinthiens 13, qu'on connaît tous, n'est-ce pas ? Mais 1 Corinthiens 13, ça ne marche pas seulement pour les mariages. Ça marche, en fait, c'est la suite d'1 Corinthiens 12, encore une fois, et ça parle des dons, n'est-ce pas ? Vous pouvez avoir tous les dons surnaturels, hein, quand je parlerai les langues des humains et des anges. Vous pouvez avoir toute la connaissance. J'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères. Vous pouvez avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes. Vous pouvez être généreux au point de distribuer tous vos biens. Et vous pouvez même aller jusqu'à mourir en martyr, n'est-ce pas ? Mais, là c'est solennel, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Rien. Donc ça vaut le coup de réfléchir. Moi, je suis un peu pragmatique. Je me dis, ça serait quand même trop bête, quoi. Que d'un seul coup, on se retrouve avec rien. Même si, voilà, on dit, oh non, mais je ne le fais pas pour... Oui, quand même. Alors, pour moi, cette parabole des ouvriers de la dernière heure, elle tombe à pic, justement, pour éprouver notre motivation. Parce que comment on fait finalement pour vraiment savoir quel est ce qui nous motive ? Alors, on a les bonnes réponses généralement, mais là, on va voir que ça va toucher peut-être certaines cordes sensibles dans notre manière d'évaluer. Alors, cette parabole, elle n'est pas très compliquée, n'est-ce pas? Vous êtes. Alors, aujourd'hui, à l'époque, voilà, c'était sur la place du village, hein, il est 6 heures du matin et il y a le maître qui passe pour embaucher ceux qui sont là. Aujourd'hui, ça se passe au kebab, hein, le gars qui vient avec sa camionnette, j'ai besoin de 5 gars, on monte dans la camionnette, et puis on se met d'accord. Pour le prix, un denier. C'est le salaire quotidien d'un ouvrier agricole. Il est 6 heures du matin. 3 heures plus tard, même scène. Et là, le maître dit, je vous donnerai ce qui est juste. Midi, pareil, allez travailler dans ma vigne. 15 heures, allez travailler dans ma vigne. 17 heures, aller travailler dans ma vigne. Et puis, à 17 heures, oui, donc voilà, la journée, hein, c'est 12 heures, n'est-ce pas? La journée se finit, la journée de travail se finit à 18 heures. Et le maître dit, qu'est-ce que vous faites encore là? Alors, moi, je suis un peu tordu. Et je me dis quand même, les gars, ça fait 4 fois que le maître y passe. Et il les a pas vus. Moi, pas pour dire, mais il est. Pourquoi, c'est la question qu'il pose, hein, pourquoi êtes-vous resté ici toute la journée sans rien faire? Dès qu'il voyait la camionnette, je pense que, bon, bref. Mais non, 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 personne ne nous a embauchés, en tout cas, c'est moi qui digresse, là, il n'y a rien dans le texte qui laisse penser qu'il y avait des mauvaises motivations. Peu importe. On est d'accord sur la rémunération. 12 heures de travail égale un denier. Donc c'est là que je sors mon tableur Excel. N'est-ce pas? Si tu as commencé à travailler à 6 heures du matin et que tu débauches à 18 heures, ça fait 12 heures de travail et ça fait un denier. Jusque-là, vous me suivez. Si tu as commencé 3 heures plus tard, tu as fait du 9-18, tu as travaillé 9 heures, bah ça fait 3 quarts. Hein, et puis voilà, Excel fait le reste. Quand tu as travaillé 6 heures, ça fait un demi-denier. Tu as travaillé 3 heures, ça fait un quart de denier. Et puis, bah, pour ceux qui ont travaillé 1 heure, ça fait un douzième. Ça, c'est la logique. Alors, que nous dit cette parabole comme ça? C'est que déjà, il semble qu'on ne sera pas classé en fonction de la quantité de travail. Et il y a quelque chose qui nous rend ex aequo là, hein? Que tu aies travaillé 1 heure ou 12 heures, tout le monde est payé pareil. Parce qu'on aurait pu tous être premier, par exemple, ou tous être dernier, mais non. En termes de rémunération, d'un seul coup, on est tous ex aequo. Et pourtant, alors, il y a marqué que beaucoup des premiers seront derniers, ce qui veut dire que pas tous. Ça me rassure un petit peu, mais bon. Bref. Avant d'aller plus loin, il faut noter que cette parabole révèle le caractère de Dieu. Et ça, c'est vraiment premier. Dieu est souverain. On est d'accord avec ça? Jusqu'à maintenant, je pense que je n'ai pas dit de choses trop. Vous me suivez encore? On verra à la fin. Mais Dieu est souverain, n'est-ce pas? Oui? Il fait ce qu'il veut. Oui? C'est bien ce qu'il a dit au verset 14. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux? Dieu est souverain, oui? Ensuite, il est juste. Dieu est juste. Ne t'es-tu pas mis d'accord avec moi pour un denier? Et avec les autres, il leur a aussi dit qu'il leur donnerait ce qui lui semblait juste. Et en cela, le maître donne ce qu'il a promis. Dieu est juste. Et puis le troisième attribut de Dieu qui sort ici, c'est qu'il est bon. Dieu est bon. Verset 15. Vous savez, chacun de ces attributs, il y a une question. Et la dernière question, elle fait mal. Verrais-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Alors nous, on va tous dire non, bien sûr. Je remarque aussi dans l'attitude des ouvriers qu'il n'y a personne qui s'est plaint d'avoir trop reçu. En fait, le souci, ce n'est pas vraiment l'argent du maître, hein, on est bien d'accord. Mais ce qui ressort, c'est que les ouvriers de la première heure pensent qu'ils valent plus que les ouvriers de la dernière heure. Alors, qu'est-ce qui fait que ces premiers deviennent derniers? Si on était dans un monde parfait, tout le monde aurait commencé à travailler à 6 heures, n'est-ce pas? Tout irait bien, il n'y a pas de problème. Sauf que, ben voilà, on vit dans un monde imparfait. Et donc, cette parabole met l'accent sur notre motivation. Et vous avez remarqué dans ce texte que lorsque, à la fin de la journée, le maître demande à son intendant de payer les ouvriers, il lui dit bien de commencer par les derniers. S'il avait commencé la paye par les premiers, il serait allé au bar tranquille. Et il n'y avait pas d'histoire. Ils n'auraient jamais su. Mais le maître dit bien à l'intendant, commence par payer les derniers. Donc si Jésus avait utilisé cette parabole pour simplement montrer que les derniers valent autant que les premiers, il n'y avait pas besoin de payer les derniers en premier. Donc il faut aller un petit peu plus loin. Et c'était bien pour faire ressortir la réaction des premiers, et c'est leur réaction qui fait qu'ils vont devenir derniers. C'est clair que les derniers ont moins travaillé, n'est-ce pas? Et si on prend que, puisqu'on est à la dernière heure du jour, avant c'était aussi, il était question d'hériter la vie éternelle, on est bien d'accord que l'héritage de la vie éternelle n'est pas proportionnel à ce qu'on va faire ici-bas. Rien, et ça c'est vraiment, c'est tellement bon de réfléchir là-dessus. Nous sommes inaméliorables. Vous avez déjà pensé à ça? Et ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ est juste parfait. Et il n'y a rien qu'on pourra faire qui pourrait améliorer notre statut en tant qu'enfant de Dieu. Ça c'est extraordinaire. C'est l'objet d'un autre message. Mais pour que la grâce puisse être grâce, il faut qu'il y ait offense. Et donc c'est pour ça que dans cette parabole, tout le monde ne commence pas à la même heure. Sinon, la grâce n'a pas besoin d'être exercée. Et donc Dieu étend sa grâce aux autres, Dieu étend sa bonté envers tous sans être injuste. La grâce n'est pas proportionnelle. Et ici, cette parabole, justement, met l'accent sur notre manière d'apprécier la bonté et la grâce de Dieu. Et ce sont nos réactions face à de telles situations qui nous permettent d'évaluer notre motivation pour le service et notre compréhension de la grâce. D'un seul coup, le salaire quotidien devient le salaire horaire. Moi, je ne sais pas, j'ai travaillé 12 heures, le gars qui a bossé une heure, il touche un denier. Moi, dans ma tête, je sais tout de suite combien je vais gagner, hein? Non? C'est facile. Et là, tu as la banane parce que tu t'es dit, ouais, je vais travailler dans le bon champ, parce que là, je vais gagner en une journée ce que j'aurais mis 2 semaines à gagner normalement. Et d'un seul coup, il y a une grande frustration, alors que le salaire était bien convenu de cette manière. Il y a quelque chose, je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui avaient un passé syndicaliste, mais en bas, tu vas au prud'homme avec un truc comme ça, quoi. C'est juste pas normal. C'est scandaleux. Payer autant quelqu'un qui a travaillé une heure alors que j'ai travaillé toute la journée. Et donc là, c'est tous les sentiments qui ressortent, hein. Je suis meilleur que lui, j'ai travaillé plus que lui, bon, je mérite plus que lui, et puis peut-être un peu quand même de jalousie. Et voyez comment d'un seul coup, le pourquoi on sert est quand même passé au filtre de cette parabole. Et que l'évaluation de notre service, d'un seul coup, se fait sur des critères qui sont complètement différents. Ne perdons jamais de vue qui nous servons. Et je pense qu'il y a là quelque chose avec les premiers qui a disparu. D'un seul coup, c'est la cupidité, la jalousie qui prennent le dessus. Et c'est pour ça que j'ai parlé du caractère de Dieu, des attributs de Dieu. Il est clair aussi qu'il n'y a pas la place, moi c'est une déformation, je ne sais pas, c'est pas professionnel, mais en tout cas, voilà, je suis un calculateur, mais il n'y a pas la place pour le calcul d'évaluation du temps passé ou de l'énergie dépensée quand on travaille dans la vigne du maître. Et puis il n'y a pas la place non plus pour la comparaison. Donc on est en face d'une parabole qui est juste pas seulement formidable, mais elle est sublime. En fait, les ouvriers qui s'étaient engagés dès 6 heures du matin auraient dû réaliser qu'ils avaient bénéficié d'un privilège extraordinaire que nul autre ne pouvait bénéficier. C'était d'avoir servi le maître toute la journée. Ça, c'est leur privilège. Ce bon maître, ce maître juste, et d'avoir passé plus de temps avec lui. Et en plus, de pouvoir se réjouir que celui qui avait travaillé moins touchait le même salaire que lui. Et quand on est là, tu as compris la grâce, en fait. Mais vous voyez que ce n'est pas aussi naturel que ça, finalement. Et c'est pour ça que le maître insiste, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Où est le problème? Et d'exprimer ma bonté envers celui, oui, qui a travaillé moins que toi, mais pour relever notre profond égoïsme. Les ouvriers qui ont travaillé dès le matin ont reçu ce qu'ils méritaient, le salaire convenu, et pourtant ils sont jaloux. Pourquoi? Parce qu'ils s'estiment supérieurs par ceux qui avaient travaillé moins longtemps. Et ça, c'est juste impossible qu'ils touchent le même salaire. Et voilà, on a du mal avec ça quand même. Hein? C'est pas... Et donc, quand on parle du royaume des cieux, puisque c'est de cela dont il est question, la vie éternelle, on voit bien que notre manière de compter doit être absolument transformée. On n'est pas dans notre logique mercantile. Et il n'y a pas la place pour tout esprit de cupidité, de compétition ou même de comparaison. Vous avez remarqué que le jeune homme riche, il était dans le faire. Et quand on est dans le faire, les exigences de Jésus sont là pour nous décourager. La meilleure chose qu'on puisse réaliser que c'est que c'est impossible. Et quand ça, on a réalisé ça, alors on va commencer à pouvoir rentrer dans la logique du royaume des cieux. Parce qu'il n'y a pas de mérite. Mais tout est grâce. Et servir le maître est grâce. Tant que nous reconnaissons qu'il est bon et juste. Mais quand on a travaillé longtemps, toute la journée, sous le soleil, on commence à penser que c'est pas juste que celui qui a travaillé moins touche autant que nous, alors que nous méritons plus. En fait, c'est un problème de vieux. Alors, j'ai pas de mal à en parler parce que j'en fais partie. Hein, je l'ai déjà dit, mais ceux de la dernière heure, ils se sont pas plaints d'avoir tout. Ça m'est arrivé, ça. J'ai travaillé dans un hôtel 4 étoiles une fois, et plusieurs mois, et un moment, bref, particulier de ma vie, j'avais besoin de sous un petit peu, et on vit avec les pourboires, j'étais bagagiste. Et donc, voilà. Et deux fois, j'ai pensé que des personnes m'avaient donné trop. À l'époque, c'était encore les francs. Hein. Le tarif normal, c'était 10 francs. Une valise, 10 francs. Des fois, tu avais quelqu'un de généreux qui te donnait 20 francs. Une fois par semaine, tu as quelqu'un qui te donnait 50 francs. Ah, tu es content, là. Tu vois. Mais deux fois, j'ai eu 500 francs. 500 francs pour prendre la valise, monter dans la chambre, garer la bagnole. Bon, des belles voitures, généralement. Mais... Et là, une fois, c'était des gars, bon bref, je ne vais pas te donner tous les détails, mais je me dis, ouais, vu les voitures, il y a... Je sais pas, ouais, puis bon, si on te donne 500 francs, tu râles pas. Hein. Et puis une fois, c'était un couple d'Italiens, et j'ai cru qu'ils s'étaient trompés, quoi. Qu'ils n'avaient pas la... Avec la lire, vous savez, la lire, il faut rajouter des billets, il faut faire des billets très longs, hein, pour mettre tous les zéros. Et peut-être que j'ai failli lui rendre. Puis bon, finalement, j'ai quand même gardé. On se plaint pas trop quand on a touché trop. Mais voyez, le problème, c'est quand on ne réalise plus que c'est grâce. Et cette distorsion de la grâce qui commence à engendrer des sentiments négatifs à l'égard de notre prochain. Et qui aussi trouble notre vision du maître. Parce qu'on commence à reprocher au maître des choses. Tu ne m'estimes pas à ma juste valeur. Je suis plus méritant que ça. Oh, j'aurais des histoires aussi à raconter là-dessus. Alors que ce maître est bon par nature. Et vous voyez comment la compréhension de la grâce et de la bonté de Dieu influence nos relations humaines. On a les mêmes choses avec les deux fils, vous savez, les paraboles des deux fils. Et voilà, évidemment, le premier, il a tout dilapidé... Mais la réaction du second, c'est le second qui est franchement perdu. Hein. Il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Et quelle est la réponse du père? Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et vous voyez, c'est notre attachement au Seigneur. Et notre manière de le servir, notre motivation, qui seront récompensées, et pas la quantité de travail effectué. Mais de manière très subtile, notre service peut nous éloigner du maître, prendre la place de notre relation. Voilà ce que dit Kenneth Boa à ce sujet. La mentalité de l'homme affairé aujourd'hui veut nous faire privilégier le faire sur l'être. Le chrétien est encore soumis à une autre tentation, celle de faire passer les œuvres chrétiennes avant le Christ et de favoriser ainsi l'activité pour le Seigneur au détriment de l'intimité avec lui. Et Oswald Chambers en rajoute une couche. Méfiez-vous de tout ce qui peut prendre la place de votre soumission absolue à Jésus-Christ. Le pire des usurpateurs est le service pour lui. L'ennemi du service chrétien. Il prend la forme d'un engagement énergique, d'un zèle sacrificiel, d'une dévotion sans mesure. Vous savez, cette transformation, elle arrive de manière subtile quand on passe de, voilà, par la magnifique expérience du salut. Nous sommes devenus chrétiens parce qu'on savait qu'on avait besoin d'un sauveur. Mais quand on rentre dans la vie de service, d'un seul coup, on commence à agir à la place du sauveur. Et donc cette parabole répond à la question du jeune homme riche et à celle des disciples. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et Jésus répond, un seul est bon. Alors il lui donne le mode d'emploi. Là c'est la panique, mais il ne s'arrête pas là. Il lui dit, puis viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Et c'est la même chose avec les disciples. Tant que nous raisonnons avec le faire, le prix à payer est impossible. Et les disciples ont bien compris ce problème. Qui donc peut être sauvé? Pour les humains, c'est impossible. Et là, Pierre, merci Pierre de la ramener, hein, pas toujours à bon escient, mais pour le coup, là, il pose la question qui nous brûle les lèvres. Et nous? Nous avons tout suivi, tout quitté, mais il dit bien, pour te suivre. Et Jésus répond, à vous qui m'avez suivi. Quiconque aura tout quitté, aura quitté à cause de mon nom. Le problème, notre problème, c'est qu'on peut servir sans suivre. On peut quitter, mais pas à cause de son nom. Et c'est là que les premiers deviennent les derniers. Alors évidemment, dans le contexte de l'Évangile, les Juifs et puis les païens. Mais vous voyez comment cette parabole aussi s'adresse à nous aujourd'hui. Plus on a servi, plus on s'attend à recevoir davantage. Et donc c'est le test de notre motivation qui est mis ici à l'épreuve. Nous avons compris la grâce de Dieu et nous demeurons dans la grâce de Dieu quand nous pouvons nous réjouir du fait que celui qui a travaillé moins reçoit autant que celui qui a travaillé plus. Ça, c'est la logique du royaume. C'est terrible, hein, t'as bossé toute l'année pour avoir ton bac. Et tu l'as avec mention assez bien et t'as ton collègue qui n'a rien foutu de l'année et qui l'a avec mention bien. T'es tellement content pour lui! Et des situations comme ça, voilà, je prends quelque chose d'un peu neutre. Dès que nous commençons à compter, nous sous-entendons que notre service est méritoire. Et nous perdons de vue la grâce de Dieu. Dès que nous servons pour autre chose que la joie de servir ce bon maître, qui nous a appelés à travailler dans sa vigne, notre joie peut se changer en amertume. Alors je vous propose, pas un vaccin, c'est assez à la mode, un antidote. En fait ici, l'antidote, il est dans le texte. C'est l'ordre qui nous met en action. Qu'est-ce qui nous met en action? Qu'est-ce qui nous fait bouger? D'abord, le caractère de Dieu. Qui est Dieu? Et ici, la bonté de Dieu. Ensuite, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la motivation de notre Père céleste. Faire grâce. Et vous savez ce que c'est la grâce? C'est recevoir ce que nous ne méritons pas. Parce que la justice, hein, ben voilà, tu reçois ce que tu mérites. La miséricorde, c'est ne pas recevoir ce que tu mérites, c'est échapper à quelque chose. Mais la grâce, c'est recevoir ce qu'on ne mérite pas. Donc la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, et quand tu es dans cet ordre-là, eh ben, tu n'as qu'une envie, c'est de suivre ce maître. Et ça, c'est notre engagement, n'est-ce pas? D'abord de le suivre. Et c'est seulement là qu'on rentre dans le service. Le problème, c'est qu'on met très vite la charrue avant les bœufs. Alors, moi, ces paraboles comme ça m'aident beaucoup parce que, voilà, j'ai des feux dans ma marche et dans mon service. J'ai des feux. Alors, ça commence à clignoter orange, vous voyez. C'est quand je commence à vraiment savoir ce que les autres devraient faire. Et là, ça commence à clignoter, tu vois. Et puis après, ça devient rouge quand tu commences à vraiment dire aux gens, quoi. Et là, tu sais, et je reviens vers la simplicité de l'Évangile et je me dis, la pierre, il y a quelque chose qui n'est plus à sa place, qui n'est plus dans l'ordre. Avant de servir, il faut venir. C'est ce que Jésus répète dans Matthieu 11, on connaît bien ce verset. Venez à moi, vous tous qui servez beaucoup. Non. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quand il a appelé ses disciples dans Marc 3, 14, Jésus, il est marqué qu'il en choisit, il en choisit 12 à qui il donna le nom d'apôtre pour qu'il soit avec lui et pour les envoyer. Premièrement, pour qu'il soit avec lui. Qu'est-ce qui a remis Pierre en selle après son triple reniement? Jean 21. Quand Pierre s'inquiète de ce qui va arriver à Jean. T'occupe pas. Toi, suis-moi. Il n'y a pas de bon service si nous le déconnectons de notre relation au Maître. Malheureusement, souvent, notre service prend la place de notre relation. C'est l'histoire de Marthe et Marie, n'est-ce pas? J'ai plus le temps de vous le faire, hein. Nos messages subliminaux pour faire comprendre à l'autre qu'au lieu d'être au pied du maître dans le salon, heureusement qu'il y en a qui pensent à nourrir tous ceux qui sont là. Marthe fait partie de cela, de celle-là. Et je pense qu'il y a les couvercles, vous savez, qui tapent de plus en plus fort. Mais comme elle n'a pas l'air de comprendre, Marie, et la réponse de Jésus est très très claire. D'ailleurs, il dit Marthe deux fois, parce que je pense qu'elle n'a pas entendu la première fois. Tu vois, c'est Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marthe a choisi la bonne part qui ne lui sera pas... Marie, pardon, a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Et là, toutes les Marthes disent, oui, mais qu'est-ce qu'on mange à midi? C'est comme ça qu'on divise les églises, hein. Mais en fait, c'est la même personne. Là, il n'y a pas longtemps que j'ai découvert ça. Alors, je sais que c'est deux sœurs, hein. Vous inquiétez pas, mais... Mais les deux sont essentiels. Mais la bonne chose, c'est cette intimité avec Jésus. Parce que sinon, il va y avoir des dégâts collatéraux. Psaume 127, « Si ce n'est le Seigneur qui bâtit la maison. » Ça, c'est un peu l'équivalent Ancien Testament de 1 Corinthiens 13. Hein. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. « Si ce n'est le Seigneur qui garde la ville, celui qui la garde veille inutilement. » Le pire, c'est le verset 2. « C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard, que vous mangez le pain de la peine. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. » Toi, suis-moi. Et que dans cette marche proche du Maître, nous trouvions le repos qui découle de la grâce. Soyons celles et ceux qui abandonnent tout parce que Dieu est bon. Seigneur, pas toujours compliqué, c'est pas toujours facile d'entendre ou de comprendre ce que tu veux nous dire, mais Seigneur, tu connais nos cœurs, et Seigneur, voilà, nous prions ce matin pour que, effectivement, ce soit toi qui remplisse nos cœurs, que ce soit notre amour pour toi, que ce soit cet amour pour toi qui nous presse. Et puis surtout que tu nous permettes de ne pas nous détourner de cette motivation. Seigneur, merci de ce que tu nous as appelés à te suivre. Merci de ce que tu nous as appelés à te servir. Mais par-dessus tout et avant tout, Seigneur, merci pour ta grâce. Et que nous soyons vraiment celles et ceux qui sont toujours et toujours davantage reconnaissant pour la grâce que tu nous as faite en Jésus-Christ. Amen.